Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Café Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et service plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre au service de la radio de la paix.
On ne se marie pas pour divorcer, dit-on, mais bien souvent la réalité est tout autre dans certains couples. Incompréhension, malentendus et disputes s'enchaînent au quotidien. Lorsque les frustrations s'accumulent, l'un des partenaires peut décider de rompre définitivement la relation. Alors, quelle est la procédure légale à suivre pour divorcer, Justine Moyon?
Oui, bonjour d'abord, et merci pour la question. Mm-hmm. Vous avez dit quelle est la procédure à suivre. La loi a dicté la procédure. Et la procédure par rapport au divorce, parce que nous parlons du divorce, mm-hmm. on doit savoir que, à titre d'introduction, pouvons dire lorsque on a célébré un mariage, ou on a contracté un mariage, n'est-ce pas? Le mariage étant une union. Sa dissolution peut provenir soit du décès de l'un des époux,
oui.
soit du divorce, soit lorsqu'il y a un nouveau mariage du conjoint de l'absent, contracté après que le jugement déclaratif du décès de l'absent. En dehors de cette possibilité, la loi, lorsque vous avez été Vous êtes appelé à pouvoir divorcer,
mmh.
la loi vous fait une exigence. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord que ne peut divorcer devant la loi que la personne qui s'est mariée officiellement. Parce que le juge ne veut pas connaître d'un mariage qui n'a pas été porté à la connaissance de l'officier de l'état civil. Il peut arriver que le mariage n'ait pas été porté à la connaissance de l'officier de l'état civil.
Mm-hmm.
Lorsque vous voulez vous en prévaloir en justice, la loi vous renvoie d'abord à régulariser cet état de choses. Là, c'est au terme de l'article 380 du même code.
Mais souvent, les officiers de l'état civil, lors de la célébration du mariage, au niveau des communes, ils disent souvent que le mariage est un voyage sans retour. Donc, vous vous engagez dans une relation et puis il ne faut pas envisager une rupture.
Oui, on ne peut pas envisager une rupture, mais il peut arriver que pendant qu'il y a incompatibilité, hein, vous ne serez pas peut-être cohabité. Hein, il y a ce que nous appelons la destruction irrémédiable du ménage qui fait que la cohabitation est pratiquement impossible. D'où la séparation du couple pour permettre à ce que chacun puisse s'épanouir.
Alors, quelles sont les raisons qui peuvent être...
Non, les raisons peuvent être multiples. Parce que maintenant, avec le nouveau code de la famille, contrairement à l'ancien code civil, qui prévoyait les divorces et sanctions, maintenant, avec le nouveau code de la famille, le divorce, ce n'est qu'un remède. On veut remédier à une situation. Ce qui fait que la procédure, elle est celle d'abord relative à la forme ordinaire, au terme de l'article 553, c'est une question pour la personne qui veut divorcer d'introduire une demande.
Alors, la personne qui veut divorcer, cette personne doit-elle au préalable informer son partenaire ou elle peut aller à son insu
Informer son partenaire, oui. Ben, si vous voulez, il y a certaines personnes qui acceptent un arrangement à l'amiable, ils se mettent d'accord qu'allons tout simplement pour formaliser les choses devant le tribunal. Parce que déjà, dans la maison, on va constater qu'il n'y a pas possibilité que les deux vivent ensemble. Et devant cette éventualité, l'époux qui se sent être plus appelé à pouvoir divorcer, parce qu'il y a toujours un qui peut tenir au divorce, un autre qui ne peut pas tenir au divorce.
Oui.
N'est-ce pas? Celui qui tient au divorce doit introduire une demande auprès du juge du tribunal de paix du lieu de la résidence de l'époux, du conjoint, ou du lieu de leur dernière résidence commune.
Donc, introduire une demande d'abord auprès du juge du tribunal de paix.
Oui.
Alors, et le juge va répondre après combien de temps?
Non, et lorsque vous introduisez la demande auprès du juge du tribunal de paix, il y a une procédure qui va sur les instances que nous appelons les instances de conciliation. Le juge va tenter de concilier.
Il va appeler les deux conjoints.
Oui, et donc il y a toute une procédure qui s'appelle. C'est lui des époux qui veut demander le divorce, présente au président du tribunal de paix de la résidence de l'autre époux ou de la dernière résidence conjugale une requête écrite ou verbale indiquant le motif du divorce. Donc vous allez introduire une requête au président du tribunal de paix du lieu de résidence de votre conjoint ou de votre dernière résidence commune. Parce qu'il peut arriver que, pendant que vous allez saisir le juge, que vous soyez en séparation de corps ou en séparation de résidence.
Alors, vous avez dit, après cela, après l'introduction de cette demande, le juge va tenter de vous réconcilier.
Oui, le président du tribunal de paix convoque ensuite le requérant. Lui adresse à huis clos les observations qu'il estime nécessaires et convenables et attire son attention sur la gravité de la requête introduite. Donc, lorsque vous avez, vous qui voudrez obtenir par le tribunal la dissolution de votre mariage, vous utilisez cette requête. Dans la requête, vous devez donner le motif. Le motif qui justifie votre requête. Pourquoi vous voulez divorcer? Et le président du tribunal de paix, auprès de qui la demande a été introduite, vous invite et vous fait à huis clos d'ailleurs, vous n'en parlez qu'à deux, à huis clos, et vous fait voir les conséquences que cela peut entraîner par rapport à la procédure à laquelle vous venez de vous engager. Et il vous fait voir les il vous fait sortir les observations par rapport à ce que la loi veut. Ça, c'est la première étape.
Deuxième étape,
oui. À défaut de répondre à la convocation, sauf en cas de force majeure, la requête pourra être réintroduite qu'après un délai de 6 mois. Donc, lorsque vous introduisez votre requête, si le juge président vous invite et que vous ne répondez pas à son invitation, vous ne pourrez réintroduire la requête que 6 mois après. Parce que quand vous ne venez pas pour présenter vos répondre à l'invitation du président, on suppose peut-être que pendant dans l'entretemps vous avez peut-être eu à vous arranger, à prendre un peu un recul pour ne pas faire avancer la procédure. Alors, lorsque le président constate seulement qu'on vous a atteint parce que vous avez entendu une demande et que lui vous invite pour que vous puissiez venir motiver ou justifier le pourquoi de votre demande par devant lui, et que vous faites défaut, il considère que peut-être c'est d'une manière, on suppose que vous n'avez plus un intérêt quant à ça. C'est ce que la loi dit, lorsque vous avez introduit cette demande et qu'on vous a indiqué, vous n'avez pas répondu à cette demande, vous ne pouvez réintroduire la requête que 6 mois après.
081-890-63-94, c'est le numéro de Capi Service, le standard est déjà ouvert, appelez-nous pour intervenir.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Et quelle est la procédure légale à suivre dans un processus de divorce? Guélor, vous êtes à Canada, bonjour.
Bonjour, je suis Nathan, bonjour, invité.
Quelle est votre question?
Ma question, c'est à deux volets. Le premier volet, c'est rapport avec la description irrémédiable de l'union conjugale, qui est même le fondement d'une action en divorce. Je veux que l'invité ou bien les émissions qui sont passées m'expliquent. Le législateur congolais n'a pas précisé explicitement ce qu'on dit les matières qui ont en ligne de compte pour arriver à établir cette description irrémédiable de l'union conjugale. Il a laissé cette appréciation. Il a laissé cette matière à l'appréciation du juge. Et lui, en tant que juge, quelles sont vraiment les matières qui peuvent faire croire au juge que réellement il y a la discussion de l'union inévitable de l'union conjugale pour arriver au divorce. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est un rapport avec les délais de liquidité. Parce que lorsque un des époux a divorcé, l'exécuteur a après s'est divorcé à observer un délai, je ne sais pas, de 360 jours pour enfin contracter un nouveau mariage. Je veux savoir ce délai d'exécuter commence à courir dès le prononcé du divorce ou bien dès que les deux époux ne sont plus dans l'histoire de l'état de divorce. Ça commence à compter dès le jour du prononcé ou bien dès le jour que l'état de divorce a commencé.
Merci bien. Patrick, vous êtes à Kikwit, bonjour. Patrick, vous êtes à Kikwit, bonjour. Dommage, je n'ai plus en ligne. Monsieur Jocelyn Moyou, vous avez suivi les deux questions, les deux autres, qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, quant à la première question, le législateur, bien sûr, a laissé au juge d'apprécier ce qui peut être que lui, le juge, peut considérer comme cause de décision irrémédiable du mariage. Je vous ai dit tout au début que lorsque quelqu'un introduit sa demande devant le juge, il doit donner le motif pour lequel il veut divorcer. Sûrement, le motif peut avoir trait soit à la conduite de la femme, soit à... Ça peut être un motif lié, par exemple, au fait que vous avez contracté le mariage, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, la famille peut se mêler, commence à faire pression, hein, et le mari se dit, comme j'avais contracté le mariage, je préfère aller devant le juge et obtenir. Ça peut être des raisons d'incompatibilité. Et c'est au juge, après les instances de conciliation, arriver à trouver que la décision irrémédiable, c'est ce qui fait que vous ne pouvez plus cohabiter. Et le juge va le trouver, ça vient dans les propos parfois des épouses, c'est pour cela que tout se fait à huis clos. Et à cette occasion, le juge apprend des époux ce qui
se passe réellement
dans ce couple. C'est après les avoir entendus à huis clos que le juge peut arriver à conclure que ici, je constate qu'il y a vraiment des décisions irrémédiables de mariage. Donc, ces personnes ici ne peuvent plus cohabiter ensemble, d'où l'obligation que la loi lui donne de pouvoir prononcer les divorces.
Mais d'après certaines personnes, les divorces peuvent être prononcés 5 ans après plusieurs tentatives de réconciliation. Est-ce qu'il y a un délai donné de 5 ans pour tenter de réconcilier les deux partenaires?
Non, quand vous dites 5 ans, c'est peut-être trop exagéré, hein, parce qu'il y a aussi la procédure qui est suivie. Il est vrai que pour certains cas, lorsque les personnes se sont séparées pour plus de 2 ans, ils sont en séparation de corps, c'est une cause que les juges peuvent considérer, parce que c'est la même qu'ils le veulent, peuvent considérer ça comme cause de décision irrémédiable du mariage.
Alors, si le divorce est déjà prononcé, il a parlé du délai.
Ces délais-là, on les donne pourquoi? Ces délais est donné, c'est tout simplement par rapport au fait que il y a un principe par rapport à la paternité. Parce que ces délais, on l'observe.
De 370
jours. Oui. Ces délais est observé pourquoi? Parce que lorsque il peut arriver que pendant que vous êtes en instance de divorce, on ne sait jamais, hein, il peut arriver que pendant l'instance de divorce,
vous pouvez revenir sur votre décision.
Non, pas revenir sur votre décision, mais les couples peuvent toujours arriver peut-être par une circonstance indépendante de leur volonté à pouvoir consommer des rapports sexuels, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, et ces rapports peuvent entraîner que lorsque le juge prononce le divorce, que cette femme soit
enceinte,
tant qu'elle ne puisse peut-être le savoir.
Oui.
Alors, l'enfant qui pourra naître, si elle contacte, par exemple, le mariage, imaginez, elle divorce aujourd'hui, sans observer ces délais-là de divorce, parce que le délai est supposé courir à dater du jour où le divorce a été...
Donc, délai de 360 jours avant de se remarier.
Oui.
Donc, c'est le temps que le législateur a donné pour se remarier de l'enfant.
Oui, non, pas celui de l'enfant.
De l'enfant,
on ne voudrait pas que dans le second mariage, que l'enfant, que la femme puisse contracter un second mariage tout en étant enceinte. Parce que si elle contracte le second mariage tout en étant enceinte,
le principe qui fait que l'enfant a pour père le mari de sa mère, cet enfant aura comme père le nouveau mari.
Le nouveau mari.
Parce qu'on aura supposé que c'est celui-là qui doit avoir obtenu des rapports sexuels avec cette femme.
Donc, c'est tout simplement pour déterminer la paternité.
C'est juste indiquer que la paternité pose problème.
Voilà.
Pour observer ce délai-là.
Ce délai-là, de 360 jours.
Oui.
Patient, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Moi, je voulais demander à l'invité.
Oui.
Je pense que la Bible autorise seulement à une personne de divorcer lorsque sa conjointe, son conjoint a commis une infidélité. Mais, à cas où la conjointe, le conjoint n'a pas commis une infidélité, il y a seulement de petites erreurs qu'il faut corriger, tout ça, et qu'une personne parmi ces deux, à savoir la conjointe et le conjoint, décide de divorcer. Comment est-ce que maintenant vous, étant que juge, vous voulez juger cette affaire, si bien que c'est le. Il faut y avoir qui, par exemple, nous avons beaucoup de biens dans la maison.
Mm-hmm.
Il y a le bien de la femme ou le bien du mari.
Oui.
Alors, que pensez-vous maintenant lorsque l'homme prend une décision sans dire aucune chose à sa femme, mais aussi la femme prend une décision sans dire à son mari? Que pensez-vous maintenant lorsque parmi ces deux personnes, il y a une personne qui décide de divorcer, si bien que ce n'est pas autorisé justement par la Bible?
Merci, Patient de Béni. Kambale, vous êtes également à Béni. Bonjour.
Bonjour, c'est Kambale, vous êtes personne à Béni. J'aimerais demander à notre invité, quelles sont les causes valables de la divorce dans les foyers? La deuxième question, quand à ce qui concerne les juges, vous allez voir les juges qui disent les affaires qui ne concernent pas, soit que les foyers qui n'ont pas commis les gagnements. Alors, qu'est-ce que. Quelle peut être la sanction réservée à un juge qui commande la divorce aux personnes qui ne sont pas reconnues à l'État?
Voilà, un juge qui prononce le divorce pour un couple qui n'était pas marié légalement. Voilà, monsieur Jupéné.
Je commence par là, de toute façon, ce juge-là, à moins qu'il n'ait pas suivi la formation requise pour ça, à moins qu'il ait fait d'une manière délibérée ou par ignorance. Mais si c'est d'une manière délibérée, vous trouverez que ce serait une œuvre qui est appelé à être réformé, oui, ça peut faire même l'objet, si on trouve le dol dans le chef du juge qui a rendu cette décision de cette manière-là, sans observer ce que la loi dit. La loi dit, lorsque le mariage, vous l'avez célébré en famille, parce qu'il arrive de fois que le mariage soit célébré en famille, et les gens ne se sont présentés pas devant l'officier de l'état civil. Et cet état de choses peut demeurer des années et des années. Vous pouvez faire 10 ans et toute la société sait que vous êtes des personnes mariées. Et lorsque une des personnes va à l'instance de divorce, pendant toute cette procédure-là de conciliation, avant que le tribunal, parce qu'il y a la procédure de conciliation, après, lorsque la conciliation a été vouée à l'échec, on va demander à l'autre, au conjoint qui avait introduit la demande, de pouvoir saisir maintenant le tribunal pour obtenir le divorce. Et pendant ce temps-là, lorsque...
Avant d'introduire cette demande, il faut d'abord régulariser.
Non, quand vous introduisez la demande, vous devez prouver que vous êtes marié.
Mais si vous n'êtes pas marié,
la loi dit seulement ceci, vous avez les mariages du moins été enregistrés, les juges suspendent la procédure. Ils suspendent et ils demandent aux parties de régulariser d'abord la procédure. Et c'est comme ça qu'on renvoie souvent les gens aux dispositions de l'article 380 du code de la famille. Nous pouvons donner lecture à notre auditeur pour qu'il comprenne par rapport à cette conduite. L'article 380 dit ceci, avant l'enregistrement des mariages célébrés en famille n'est opposable qu'aux époux ou à ceux qui ont participé à cette célébration conformément à la coutume. Donc les mariages ne produisent pas des effets à l'égard d'un tiers si on n'a pas fait enregistrer. Ils ne produisent des effets qu'à l'égard des époux et ceux qui ont participé à cette célébration du mariage en famille. Et alors, tant que les mariages célébrés en famille n'a pas été enregistré,
est que l'un des époux en invoque les effets en justice. Ici, on veut obtenir, par exemple, les divorces. Mm-hmm. Le tribunal suspend la procédure jusqu'à l'enregistrement. C'est ce qui arrive par moment. Et lorsque le juge suspend, il demande au requérant de pouvoir prouver par une décision judiciaire, c'est ce qui peut, ça peut donner l'objet à un jugement de déclaration tardive du mariage devant le tribunal de paix, et vous obtenez ces jugements-là, et ces jugements vont permettre à ce que vous allez devant l'officier de l'état civil pour faire enregistrer votre mariage, parce que le mariage n'a pas été enregistré dans le délai. Après avoir obtenu ce jugement, vous savez encore revenir, parce qu'il y a tout simplement surséance. Quand on dit il suspend le juge, il suspend la procédure, donc il ordonne la surséance en attendant que vous puissiez faire enregistrer votre mariage, selon la procédure requise à la matière. Alors, le juge ne peut pas, à moins que s'il est fait d'une manière délibérée, et on va trouver le dol en lui. Et si on trouve le dol en lui,
c'est quoi le dol?
Le dol, le dol en ce qui concerne le magistrat, on peut penser le dol comme une faute, un manquement par rapport à la
une faute lourde du magistrat
qui pouvait prendre son origine soit dans la corruption, soit dans la confession, et qui peut être un motif de la procédure de prise à partie, qui peut conduire à ce que le juge soit sanctionné et que l'œuvre du juge soit anéantie.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Nous parlons aujourd'hui de la procédure à suivre dans un processus de divorce. La procédure à suivre pour divorcer. Patient de Béni a posé cette question. Il dit que la Bible autorise le divorce seulement en cas d'infidélité. Alors, si c'est pour un problème de bien, gestion des biens, l'un des partenaires prend la décision soit d'utiliser le bien comme il le veut, sans dire à l'autre, est-ce que cela peut constituer, cela peut être un motif de divorce. Et Kambal est encore revenu sur les causes du divorce. Vous avez dit qu'il revient au juge d'apprécier. Alors, nous avons quelques auditeurs. Internautes nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Patel Mupois, il dit ceci: si l'on fait le mariage civil à la commune, doit-on se rendre à la commune pour déposer également la lettre de divorce? C'est sa question. Et Herbert Selukumwena Kalala de Kalimini, quelles sont les causes selon la loi qui peut pousser les conjoints à divorcer? Selon la loi, toujours, peut-on parler du divorce pour les couples à vivre en divorce?
Les couples en union libre. Bon, les couples en union libre, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure ici. Quand on considère l'union libre au terme de la loi, c'est comme ceux qui entretiennent une deuxième femme, ce que nous appelons l'union libre. Et cette union libre ne peut pas suivre la procédure de divorce, parce que l'union libre suppose que celui qui entretient une union libre, il est engagé dans un mariage. Dans un lien de mariage.
Donc, union libre, c'est-à-dire vous n'êtes même pas marié quotidiennement.
Bon, vous pouvez faire cette procédure, vous allez obtenir l'équitus de la famille de cette deuxième femme, la femme avec qui vous vivez dans l'union libre, mais aux yeux de la loi, cette dernière n'est pas protégée. Ce sont peut-être les enfants, ce sont les enfants de cette dernière qui sont protégés par la loi. Parce que les mêmes enfants sont sur le même pied d'égalité, parce qu'on va les appeler les enfants hors mariage, qu'on va considérer comme les enfants légitimes au même titre que ceux qui sont nés dans les mariages.
Alors, Patel Mouy, pour vous apporter la question, comme on est marié à la commune, est-ce qu'on doit aller déposer la lettre?
Non, ça veut dire que la décision va renseigner, parce que la décision ordonnant le divorce, parce que vous savez, lorsque vous avez déjà, vous êtes marié dans une commune, il ne faudrait pas qu'on puisse enregistrer un second mariage. Alors, c'est question aussi de signifier à l'officier d'état civil que le mariage qu'il avait célébré à son temps fait l'objet aujourd'hui d'une décision judiciaire qui ordonne sa dissolution.
Alors, qu'est-ce que vous direz? Vous allez reprendre la passion de Denis qui dit que la double
est Oui, c'est pour cela que nous disons ceci. Pour certaines personnes, l'infidélité de la femme ne peut pas constituer une cause de succès irrémédiable du ménage. Parce que déjà, partant, le fait que la femme infidèle est supposée celle qui a commis l'adultère. Vous savez que l'adultère, étant d'ailleurs même prévu par les dispositions légales, ne peut faire l'objet de poursuites que sur initiative du conjoint offensé. Lorsque celui-ci estime qu'il n'a pas été offensé, ça ne peut pas être considéré comme étant une cause de suspension immédiate, à moins qu'il démontre suffisamment. C'est pour cela que chez nous, ici, actuellement, les faits d'entretenir, à l'époque, tant quelqu'un, avec le code civil, ça pouvait être une cause de divorce. Mais là, ce n'est pas une cause. L'infidélité ne peut pas être une cause. À moins que cette infidélité soit de nature à pouvoir constituer une cause de scission immédiate du ménage. Donc, on ne peut pas, le couple ne peut pas continuer une vie commune par rapport à ce moment-là que les gens vont apprécier. Pour cause d'infidélité, la cause d'infidélité apparaît à ce moment-là comme cause de scission immédiate du ménage. Parce que c'est ce motif-là qui fait que il y a crise de confiance entre les époux, ce qui ne peut pas permettre à ces deux personnes continuent à partager une vie commune.
Bien. Deux auditeurs en ligne, ingénieur Mangoyo et Kinshasa et Blanchard et Tambandaka. Ingénieur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bon, moi je voudrais partager un cas de figure avec notre invité pour lequel je voudrais connaître son avis. Voilà, il y a un couple, deux jeunes gens se marient légalement, et après plusieurs, soit quatre naissances, ce couple dont le mari décide de divorcer. Alors, après plusieurs tentatives de réconciliation au niveau des parents, le mari ne dit pas exactement pourquoi il veut divorcer. La réconciliation, disons, à l'amiable, est impossible. Puisque le mari, surtout le mari, le papa du mari, lui aussi, épouse son enfant, il dit, le mariage ne peut plus continuer, il faut divorcer.
Et la femme ne connaît pas ses raisons, les raisons à la base de ses décisions.
La femme, avec les parents de la femme, nous sommes là, on discute, mais le mari ne dit pas exactement pourquoi il veut divorcer, mais il tient seulement que ce n'est pas de sa femme. Alors, la femme dit, ok, d'accord. Après plusieurs tentatives, la femme dit, ok, d'accord, fais-moi une lettre de divorce, comme ça, on se sépare. Le mari dit, niet, fait que moi je viens de faire, ça suffit comme divorce. Alors, après le mari va se remarier. Quelles pourraient être les conséquences de cet acte? Je voudrais connaître la vie de notre invité.
Merci, ingénieur Mangoyo. Blanchard, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Oui, bonjour, je dis.
Quelle est votre question, Blanchard?
Oui, j'ai des préoccupations à poser à l'invité. La première est celle-ci. Entre les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance, lesquels sont compétents pour se prononcer en cas de litige de divorce? Et la deuxième, quelle est la différence qui existe entre les divorces sanctions et les divorces remèdes?
Merci. Alors, okay. Rapidement, vous répondez.
Bon, le tribunal compétent, j'ai dit déjà qu'au terme de l'article 354, l'action en divorce au terme de l'article 353, cette action en divorce est portée devant le tribunal de paix. C'est le tribunal de paix qui est compétent pour connaître de l'action en divorce. Le tribunal de grande instance ne connaîtra de l'action en divorce qu'au degré d'appel, parce que le tribunal de grande instance connaît les causes qui ont les jugements, les décisions rendues par le tribunal de paix. Au premier degré et au second degré, c'est le tribunal de grande instance qui peut connaître de cette action qui a été portée devant le juge du tribunal.
La différence entre divorce et divorce.
Je vous ai dit que dans l'ancien code civil, avant la réforme ou l'innovation qui a été apportée par le code de la famille, de la loi du 1er août 1987, que nous appelons un portant code de la famille, le divorce était une sanction. Donc, ça veut dire quand vous allez vous initier une action en divorce et que le divorce était prononcé au tort du conjoint qui est l'auteur de cette destruction irrémédiable ou l'auteur de cette impossibilité de partager la vie. C'est à son tort qu'on prononçait le divorce. Maintenant, on a estimé qu'on ne pouvait pas continuer à sanctionner les gens. On préfère apporter un remède parce que la séparation, c'est pour facile. Elle vient tout simplement résoudre une question de cohabitation. C'est pour cela qu'on a introduit la notion de cause de décision irrémédiable du ménage. Il faut qu'il y ait une cause expresse qui démontre qu'il y a destruction irrémédiable du ménage. Donc, le ménage est détruit.
Impossible. Bien. Alors, par rapport à la question de l'ingénieur Mandolio, qu'est-ce que vous voulez dire?
Le mari qui s'est remarié, il doit savoir.
Et sans finir à sa femme,
sans qu'il y ait une décision de divorce. Parce qu'il ne peut pas. Ce mariage-là, le second mariage, est nul.
Il est nul.
Il est nul. Il est nul parce que c'est un mariage qui n'a pas. Parce que vous ne pouvez vous remarier qu'après avoir divorcé.
Il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude d'écrire le divorce à leur femme ou à leur mari, voilà, et puis c'est fini, ils sont passés par le...
Non. Il faut amener monsieur à aller devant le tribunal. Même la dame, elle peut introduire une demande devant le tribunal pour qu'elle aussi... Parce que vous savez, la dame... Elle est c'est aussi liée par, elle est liée par le premier mariage. Mais monsieur est allé se remarier. Mmh. Et lorsqu'il va se remarier, il ne pourra pas peut-être dire devant l'officier de l'état civil qu'il est, parce que vous savez, dans l'acte de mariage, il est toujours, il faut préciser que vous venez, vous n'étiez pas lié dans un lien de mariage. Et ça, il faut dire devant l'officier d'état.
Alors, il a eu 4 enfants avec cette femme, il abandonne la femme, il va se remarier sans signifier le motif. Alors, maintenant, qu'est-ce que la femme doit faire?
Oui, la femme peut même attaquer l'acte de mariage. C'est selon le contenu qui est dans l'acte de mariage. Parce que si le monsieur n'a pas dit à l'officier d'état civil, il s'est présenté comme quelqu'un qui n'a jamais été dans un lien de mariage, on peut poursuivre ces déclarations-là comme étant de fausses déclarations ayant donné lieu à un faux acte de mariage, parce que cet acte va contenir l'altération de la vérité. Le fait que le monsieur n'a pas si à tromper l'officier d'état civil en se présentant comme quelqu'un qui n'a jamais été dans un lien de mariage.
Quelles sont les sanctions?
Oui, les sanctions, c'est que l'acte sera attaqué en faux et la personne peut être poursuivie pour ce fait-là.
Et il doit dédommager la femme.
Non, ici, la femme, lorsqu'elle elle attaque, elle a subi un préjudice. Vous devez déjà savoir qu'elle aurait bien voulu que monsieur puisse divorcer par voie légale. Mm-hmm. Mais là, quand monsieur arrive même à tromper la société, à tromper tout le monde par rapport à son passé.
Mais son passé avec son père.
Oui, je vous dis souvent, ce sont des cas comme ça qui arrivent, les cas sont les gens. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous avons toujours essayé, d'ailleurs, pendant l'instance de conciliation, par moment, on exclut les parents, on essaye de, les juges essaient de parler à huis clos avec les
sinon ils peuvent influencer
pour voir s'il n'y a pas une influence extérieure qui entraîne cette action-là. Alors, pour monsieur qui est allé se marier, il doit savoir qu'un mariage, quand vous contractez un second mariage sans annuler l'autre, par le fait antérieur de l'acte, on trouve que le second mariage, c'est un mariage qui est nul. Mais on peut encore attaquer ce mariage-là. Et cela est fonction du contenu de l'acte de mariage. Parce que si monsieur il a dit qu'il était déjà, il avait connu un précédent mariage, il doit le prouver en produisant le jugement de divorce. Quand il produit le jugement de divorce, et l'officier de l'état civil va dire que monsieur avait connu un premier mariage qui a été dissous. Mmh. C'est comme ça qu'il a contracté le second mariage.
Bien.
Mais s'il ne le dit pas, cela veut dire qu'il s'est présenté comme quelqu'un qui n'a jamais été dans un lien, il n'a jamais été dans un mariage. Mmh. Et ces déclarations-là altèrent la vérité parce que la vérité est altérée dans les documents qui sera l'objet.
Il a trompé l'officier de l'État.
Oui, il a trompé, mais il a altéré la vérité.
Il a altéré la vérité.
C'est ce qui est plus utilisé. Celui-là. Donc, son second mariage
est nul.
Il ne peut pas être reconnu parce que c'est un mariage qui est en quelque sorte en superposition avec un autre
mariage. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va faire un truc dans notre jour. Nous rappelons que vous êtes magistrat au parquet de grande instance de la Gambie à Kinshasa. Merci et à la prochaine.
Ok, on va couvrir.